Surtout que, historiquement, la Belgique a toujours été un centre important de diffusion des idées et des méthodes révolutionnaires. Et le cas le plus connu, c'est celui de l'avant-guerre, où les bolcheviks avaient installé leur centrale révolutionnaire à Berlin, qui s'appelait le WEB, Western Europäisches Bureau, dans les années 20 et quelques, pendant la période d'alliance entre les léninistes et l'état-major impérial, continué par la petite armée de 100 000 hommes. Oui, ça c'est une chose sur laquelle j'ai une énorme documentation. Oui,
ah oui.
Et donc le WEB qui centralisait toute l'agite propre sur l'Europe, et puis aussi tout l'espionnage industriel sur les pays de l'ancienne l'alliance de la guerre de 14. Tout ça s'est trouvé détruit par Göring quand il est devenu ministre, parce qu'il n'a pas été que ministre de l'air, il est devenu aussi, comment dirais-je, ministre de l'intérieur de la Prusse. Donc Berlin était sous son contrôle policier et il a fait, comment dirais-je, partir le WEB qui est allé s'installer à Bruxelles. Mmh. Et à partir de là, on a vu justement, après quand le Parti communiste français a été bloqué par Daladier, on a vu tous les Duclos et autres se barrer en Belgique.
Exactement.
Et manipuler à partir de là. Et puis pendant la guerre, on a vu aussi que les réseaux soviétiques, une bonne partie était contrôlée à partir de Bruxelles, avec la cellule de la rue des Atrébates, enfin pour ceux qui ont
l'Orchestre Rouge et
toutes ces choses-là.
Et voilà.
Donc si vous voulez, il était assez logique qu'un nouveau vecteur de cette nature se soit formé, et ça semble échapper, parce que très vraisemblablement, tous les gens qui s'occupaient de l'enseignement jusqu'à maintenant n'ont pas beaucoup de culture historique. Enfin, je ne veux pas être méchant à leur égard, mais j'ai cette impression très nette en écoutant la télévision, ce que je ne faisais jamais avant.
Cela dit, le pouvoir les aide bien, puisque ces gens, naturellement, sont dans les services, et par conséquent, ils obéissent au pouvoir politique.
Oui, en plus.
Et qu'à partir du moment où le pouvoir politique les dirige vers d'autres enquêtes que les enquêtes concernant le terrorisme islamique aujourd'hui, et ces gens-là ne peuvent pas être partout. Et par conséquent, les cellules de d'infiltration aujourd'hui sont plus intéressées par l'hydre brune, pour ne pas dire noire, que pour les réseaux terroristes. On commence à se rendre compte d'ailleurs de cette erreur aujourd'hui.
Oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que, comment dirais-je, dans le système révolutionnaire, le groupe, l'organisation révolutionnaire, la Troïka pour le terrorisme, n'est qu'une branche de l'action. Parce que le terrorisme en soi, ce n'est pas une force politique. Il doit s'incruster, être encadré dans un système militaro-politique. C'est-à-dire que, comment dirais-je, par exemple, en Algérie, l'OPA, l'Organisation Politico-Administrative, qui faisait fonction pour s'emparer des populations par le FLN, avait un chef politique qui domine, un chef administratif qui fait rentrer l'argent, qui contrôle les populations, etc., et puis un chef terroriste. Donc, si vous voulez, normalement, à côté de l'organisation terroriste, il doit y avoir d'autres organisations qui travaillent en même temps, dans le même but. Et là, il semblerait bien que, pour une bonne part, ce soit certaines mosquées qui font le travail.
C'est évident.
Ça semble de plus en plus évident.
Ce que les Tunisiens ont tout de suite... Pour lequel les Tunisiens ont tout de suite réagi lorsqu'il y a eu des attentats en Tunisie, puisqu'ils ont fermé immédiatement 33 mosquées salafistes,
ah oui.
Alors qu'en France, on en a fermé une.
Oui,
or, des mosquées salafistes en France, il y en a, il y a les connues et les inconnues. Et elles n'ont pas été fermées en France. Pardon. Alors, Jean-Pierre Fontaine, il va falloir que je vais donner la parole. Mais on se reverra parce que les développements que vous avez encore à nous apprendre à travers votre expérience permettent précisément d'analyser les faits divers qui sont largement manipulés, on le sait bien, En un mot, on sait que la grosse presse nous dit bien que ce qu'elle a le droit de nous dire. Or, il y a une analyse beaucoup plus sérieuse à faire de ces, pour comprendre pourquoi. La grande presse, généralement, d'ailleurs, pose les bonnes questions. Comment se fait-il que M. Absalem ait pu rester 4 mois caché dans un appartement, alors qu'il a été perquisitionné auparavant, alors que ses réseaux étaient à peu près connus, alors qu'on avait son numéro de téléphone avant. Bon, voilà. L'organisation que vous manifestez là aujourd'hui, que vous révélez aujourd'hui, permet effectivement de comprendre la façon dont ces différents réseaux terroristes arrivent à marcher. Moi, je retiens simplement d'une chose de vos propos aujourd'hui, et on continuera cette conversation, c'est qu'à partir du moment où on nous dit sur tous les tons que nous faisons la guerre, on ne peut pas en même temps faire la guerre et continuer à supprimer des centaines, pour ne pas dire des milliers, de postes de militaires, de policiers, etc. Et qu'à partir du moment où on a, quand bien même on aurait ces effectifs, si la volonté politique n'est pas d'éradiquer non pas le terrorisme, mais l'ennemi désigné, que le politique doit finir par désigner.
Oui, et abattre.
Et abattre, eh bien, ça peut durer encore quelques dizaines d'années. Pasteur Richard.
Je crois. Bon, je vais, avant de parler du social, je vais aborder ça. L'intérêt dans tout ça, c'est de s'interroger sur les présupposés philosophiques qui ont amené à ce type de lecture. Parce que derrière tout ça, il y a des schémas intellectuels, des visions du monde. Et ces visions du monde ne sont pas tombées du ciel. Et donc, ce qui s'est passé en Algérie et ailleurs, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. C'est aussi parce que dans la tête des gens, on leur a inculqué certaines conceptions. Et il est intéressant, quand on parlera du social, de s'interroger pourquoi on discute comme ça et de quel belvédère on se place pour en parler.
De points d'observation. Tout voilà, à fait d'accord.
Belvédère. Hein.
Alors, je me permets de lire les quelques messages que je reçois. Ils sont dans l'ordre non chronologique, pardonnez-moi. Alors d'abord, un auditeur nous dit « Vous mélangez un peu marxisme et islam. Ce sont deux choses différentes. Veuillez vérifier dans un dictionnaire. »
Alors, si oui, je peux... enfin, c'est stupide. Hein.
Voilà. Si je peux, cher auditeur, retrouver dans votre dictionnaire la progression de l'islam et de la progression du marxisme. Voilà. Eh bien, vous verrez que c'est tout à fait probant. La progression du marxisme est un peu avant ou un peu après celle de l'islam, mais elle est parfaitement conjointe.
Voilà. Et comme on le disait tout à l'heure, en réaction contre le monde moderne, contre notre monde, voilà.
Exactement,
voilà.
Bien sûr.
Ce sont deux schémas différents, mais qui partent de présupposés différents, mais qui sont des réactions contre le monde individualiste moderne.
Exactement. Et elles se suivent, mais c'est tout à fait flagrant.
Et ce qui est intéressant, je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'islamisme a surgi quand le communisme s'est effondré.
Une auditrice, les attentats islamiques ont commencé dans les années 80. Non, madame, on verra pourquoi. En 85-86, il y en a eu beaucoup dans Paris. Les gouvernements n'ont pas fait grand-chose pour arrêter ce phénomène, qu'en pensez-vous? Alors, deux réflexions, enfin, vous compléterez, bien sûr. Un, les attentats n'ont pas commencé dans les années 80, ils ont commencé dans les années 58-62. Bien. Et rappelons que c'était des départements français.
Français.
Bien. Et puis en 85-86, il y en a eu beaucoup dans Paris, oui, effectivement. Et souvenez-vous de la belle phrase de Monsieur Pasqua qui, à l'époque, avait dit « Nous allons terroriser les terroristes ». Et résultat, on les a tous émargés. Un est resté en prison, tous les autres ont été libérés et rendus à leur pays d'origine. Voilà, le Liban, etc. Par conséquent, effectivement, les gouvernements n'ont pas fait grand-chose pour arrêter ce phénomène. Bien oui. Alors, là, il faudrait faire une émission complète, car on peut aussi, chère auditrice, se poser la question de savoir, reprenez la grande presse d'ailleurs de l'époque, qui avait fini par révéler un certain nombre de choses. La plupart de ces attentats étaient connus des services de police, enfin les préparations d'attentats étaient souvent connues des services de police avant que l'attentat n'ait lieu. Mais les attentats ont bien eu lieu. On peut poser beaucoup de questions à ce sujet-là. Pourquoi les musulmans d'Indonésie ne sont pas violents ainsi que ceux de Malaisie? Alors, ça, cher auditeur, c'est parce que vous ne lisez pas la presse. Lisez l'excellente revue des missions étrangères de Paris et vous allez apprendre qu'en Indonésie comme en Malaisie, les attentats, les pogroms, les massacres de chrétiens sont considérables. Il ne faut pas se tromper. Les chrétiens sont extrêmement, pour ne pas dire inquiétés, ils sont massacrés dans ces pays. Il y a beaucoup de communautés, il y a des églises détruites, il y a des gens crucifiés dans tous ces pays. Indonésie, Malaisie. Pourquoi ceux d'Afrique du Nord, ceux d'Afrique noire sont-ils violents ainsi que ceux des Philippines? Eh bien, bah, alors ça, effectivement, on peut encore se poser la question. Je dirais simplement que les pays occidentaux, par les colonisations, ont été beaucoup plus fréquents, beaucoup plus présentes en Afrique du Nord, en Afrique noire, etc. C'est peut-être ce qui explique. En ce qui concerne les Philippines, il y a eu une poussée musulmane considérable que l'Église a d'ailleurs réussi peu ou prou à enrayer, et que les attentats sur l'île de Jolo, etc., c'était à la fois des groupes que l'on peut qualifier de grand banditisme, puisqu'ils rançonnaient tout et n'importe qui, ils étaient également des mercenaires au service de causes qui ne concernaient absolument pas l'islam. En attendant, ils ont fait effectivement beaucoup de dégâts. Un auditeur nous dit le terrorisme occidental a détruit en 2003 l'Irak, faisant plus d'un million de morts avec des armes de destruction massive. En 2011, c'est la destruction de la Libye, faisant plusieurs centaines de milliers de morts. C'est le bon terrorisme des gens civilisés. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le bon terrorisme des gens civilisés, mais la responsabilité politique et militaire et guerrière de nos gouvernements occidentaux à vouloir strictement imposer...
Et des Américains,
bien l'ordre évidemment. Américain. Et à vouloir imposer les modèles de démocratie occidentale qui n'existent absolument pas dans l'esprit des musulmans, il est bien évident que nos pays occidentaux, nos gouvernements occidentaux ont une responsabilité considérable dans ce qui se produit aujourd'hui.
Tout à fait. Et principalement les Américains. Mais il faut s'interroger aussi sur le fait que dans l'islam, je vais sortir un lieu commun, il n'y a pas de, comme chez nous, de différence entre le temporel et le spirituel. Donc voilà. Tout est régi par le spirituel, ce qui explique aussi qu'on ne peut pas toucher au Coran. Donc c'est un tout, je veux dire, voilà. Exactement. Et on veut leur imposer un modèle où dans le fond, il y a vie privée, vie publique, qui ne correspond pas du tout, alors, schéma mentaux.
Exactement, tout à fait d'accord.